Chapitre 2. Exposons la situation dans laquelle, à l'entrée d'Octave à Rome, se trouvaient, et la ville, et les différents acteurs du drame qui va se dérouler sous nos yeux. Comme nous l'avons dit dans notre étude sur César, Brutus et Cassius, en voyant se soulever la ville contre eux, étaient allés chercher un refuge à Antium. C'était de là que Brutus, qui venait d'être nommé préteur, avait donné ses jeux. Il avait beaucoup compté sur la splendeur de ses jeux pour être rappelé, mais le peuple avait fort applaudi les jeux sans rappeler Brutus. Quant à Antoine, nous avons dit qu'il était tout puissant à Rome. La retraite de Brutus et de Cassius l'y avait laissé souverain maître. Tous les amis de César s'étaient joints à lui, et Calpurnia avait porté chez Antoine non seulement tout ce qu'elle avait d'argent, 4 000 talents, c'est-à-dire environ 22 millions de notre monnaie, mais encore les registres où César écrivait tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il comptait faire. Maître de cet argent, Antoine en faisait des prodigalités. Maître de ces registres, Antoine y insérait ce qu'il voulait et, les registres à la main, parlait au nom de César mort, comme si César eût encore été vivant, nommant les magistrats, rappelant les bannis, élargissant les prisonniers. Cela lui était d'autant plus facile qu'il était alors consul et avait pour préteur son frère Cassius et pour tribun son frère Lucius. Un seul homme eût pu lutter contre lui si cet homme en eût eu le courage. Cet homme, c'était Cicéron. Cicéron n'ignorait pas la haine que lui portait Fulvie, cette veuve de Claudius devenue la femme d'Antoine. Peut-être eût-il bravé Antoine seul. Antoine avait les défauts, mais aussi les qualités des hommes sanguins et ivrognes. Il était emporté, violent, brutal, mais sans haine et sans rancune. Doublé de cette némésis qu'on nommait Fulvie, Antoine l'épouvanta. Aussi Cicéron voulait-il, voyant Antoine maître souverain, aller rejoindre, en qualité de lieutenant, Dolabella son gendre, qui, comme consul, était collègue d'Antoine. Mais Hirtius et Pansa, deux hommes de bien désignés pour succéder à Antoine dans le consulat, le conjurèrent de rester, lui promettant, une fois au pouvoir, s'il voulait les y aider, de détruire la puissance d'Antoine. Mais tout ce qu'ils purent obtenir de lui, c'est qu'il n'irait qu'à Athènes et reviendrait à Rome dès qu'il serait en consulat. Il partit donc au commencement d'avril, passa 2 ou 3 mois dans ses différentes campagnes. Enfin, il s'embarqua de Velli pour Régium, composa pendant la traversée son traité des topiques, qu'il adressa de Régium à son ami C. Thébatius. Puis de Régium, il vint à Syracuse, où il s'embarqua de nouveau. Mais deux fois, les vents contraires le repoussèrent sur la côte d'Italie. Là, il apprit des nouvelles inespérées qui lui firent prendre la résolution de revenir à Rome. On lui mandait qu'Antoine s'était incroyablement adouci, qu'il reconnaissait l'autorité du Sénat, que Brutus et Cassius ne tarderaient pas à pouvoir entrer dans la ville. Soit ambition, soit honte, on peut être ambitieux sans être brave, Cicéron se repentit de sa précipitation. Il eut à Velli une entrevue avec Brutus et annonça à quelques amis que le 31 août, ils eussent à venir au-devant de lui. Ces quelques amis en prévinrent d'autres, de telle sorte que Cicéron trouva toute la ville aux portes et dans les rues. Si bien qu'il put se croire encore au beau jour de sa popularité, où il s'écriait « Ô fortunatam natam, me consulé roman !» Et en effet, dit Plutarque, il vint au-devant de lui une foule si grande qu'il lui fallut dépenser toute une journée à serrer les mains et à embrasser ses amis, depuis la porte de la ville jusqu'à sa maison. La démonstration inquiéta Antoine. Il voulut savoir tout de suite à quoi s'en tenir. Il convoqua le Sénat. Cicéron fut invité à s'y rendre. Mais Cicéron avait épuisé tout son courage la veille et il resta au lit, sous prétexte qu'il était encore horriblement fatigué de son voyage. Antoine ne s'y trompa point, il comprit que Cicéron craignait quelque embûche. Le soupçon le blessa, et comme c'était l'homme des moyens conciliateurs, il envoya des soldats pour inviter Cicéron à se rendre au Sénat et brûler sa maison s'il s'y refusait. Par bonheur, quelques amis d'Antoine se jetèrent à la traverse de cette résolution, et obtinrent qu'Antoine envoya, après les soldats, avec ordre de revenir. Il était temps. Les soldats, qui n'aiment pas les avocats, avaient fait diligence et n'étaient plus qu'à quelques pas de la maison de l'illustre orateur, lorsque le messager les joignit et les arrêta. Mais Antoine, qui ne voulait pas avoir tout à fait le dernier, fit prendre un gage chez Cicéron. Comme l'expression peut être inconnue à nos lecteurs, disons ce que c'était que prendre un gage. Quand on envoyait un huissier à un sénateur ou à quelque magistrat pour qu'il se rendît au Sénat, et que, malgré cette invitation, il ne s'y rendait point, on faisait prendre chez lui quelques meubles qui témoignaient de sa désobéissance. On appelait cela « pignora capere », « prendre des gages ». Cette violence rendit le courage à Cicéron. Il fit dire au Sénat qu'il irait le lendemain rendre compte de sa conduite et peut-être demander aux autres compte de la leur. Le lendemain, ce fut Antoine qui eut peur et qui ne s'y trouva point. Cette absence enhardit Cicéron, qui en profita pour lancer contre Antoine sa première philippique. Maintenant, comment les discours que Cicéron prononça contre Antoine s'appellent-ils les philippiques, quand ceux qu'il prononça contre Catilina s'appellent les catilinaires? C'est que Cicéron, grand imitateur de la Grèce, grand admirateur de Démosthène, eut l'idée de donner à ses discours contre Antoine le même titre que Démosthène donna à ses discours contre Philippe. La ressemblance fut poussée jusqu'au bout. Démosthène s'empoisonna au moment où il allait être tué par Antipater. Cicéron ne s'empoisonna point et fut tué par Antoine. Au reste, la première philippique semblait lancée comme un ballon d'essai. Elle accusait moins Antoine qu'elle ne justifiait Cicéron. Elle fut prononcée le 2 septembre de l'an de Rome 709. Cicéron avait alors 63 ans. Les autres la suivirent, mais en sortant des limites de la première. Voilà ce qui était arrivé. Antoine, irrité du premier discours de Cicéron, avait indiqué pour le 19 une autre assemblée du Sénat. Cicéron voulait s'y rendre, mais ses amis l'en empêchèrent. Antoine, n'ayant plus là Cicéron pour lui répondre, éclata en reproches et en injures contre son adversaire, cita la lettre sur le rappel de Sextus Claudius, l'accusa d'être le complice de Brutus et de Cassius, et s'attacha surtout à exciter contre lui les vétérans de César. Antoine avait une certaine éloquence brutale, enjolivée par des fleurs de rhétorique orientale, qui ne laissait point que de produire son effet. Cicéron comprit que c'était une lutte qu'il fallait soutenir et il composa sa seconde philippique que Juvénal appelle une œuvre divine. Seulement, pour la composer, il avait quitté Rome et s'était retiré dans une de ses maisons de campagne près de Naples, d'où il l'envoya à Brutus et à Cassius. Mais il se garda bien de la prononcer en Sénat, il n'était pas encore assez sûr de ses honorables collègues. Mais un événement allait les mettre du parti de Cicéron. Nous avons dit qu'Octave était arrivé à Rome. Octave, en arrivant à Rome, avait été tout d'abord salué Antoine comme son père adoptif et, tout en causant avec lui, il lui avait glissé un mot de certaines 30 millions que Calpurnie lui avait confiés. À la grimace qu'avait faite Antoine, Octave jugea, chose de laquelle il s'était douté, que les millions étaient entamés. Octave s'empressa de dire que ce n'était point pour lui qu'il réclamait ses millions, mais pour le peuple romain, César ayant laissé 300 sesterces à chaque citoyen. Cette demande fit sourire Antoine. « Oh, jeune homme, dit-il, ce serait folie à ton âge, ayant si peu d'amis et n'ayant point encore fait preuve de capacité, d'accepter la succession de César, laquelle est, à mon avis, un fardeau bien au-dessus de tes forces. » Mais le fardeau, Octave, tout jeune qu'il était, l'avait pesé et était résolu de s'en charger. Il insista. « C'est bien, on verra, » répondit cavalièrement Antoine. C'était tout vu. Il était clair qu'Antoine ne voulait pas rendre les 30 millions et surtout ne point renoncer à la charge d'exécuteur testamentaire qu'il s'était arrogé. Octave sortit de chez Antoine, laissant celui-ci plus étonné qu'inquiet de cette fermeté manifestée par un enfant. Mais l'enfant allait prendre conseil de deux hommes. Ces deux hommes étaient l'un Philippe, son beau-père, l'autre Marcellus, son beau-frère, qui avait épousé l'Octavie, née du premier mariage d'Octavius. Tous deux furent du même avis, qu'Octave vit Cicéron et s'entendit avec lui. Octave accepta et tous deux le conduisirent chez l'illustre orateur. On se rappelle le songe qu'avait fait Cicéron et dans lequel il avait vu un enfant qui descendait du ciel, soutenu par une chaîne d'or. En voyant le même jour un enfant traverser le forum, il l'avait reconnu pour celui de son rêve et il avait su que cet enfant était le jeune Octave. Depuis ce temps, Cicéron n'avait jamais rencontré l'enfant ou le jeune homme sans lui parler avec d'autant plus d'amitié qu'il avait appris de lui-même qu'il était né sous son consulat. En le retrouvant dans ce moment critique, il pensa qu'il venait de la part de Jupiter et lui souhaita, lui l'helléniste par excellence, la bienvenue en grec. Octave rougit. Il parlait difficilement la langue savante qui était alors à Rome, ce que le français est aujourd'hui à Pétersbourg, et il avoua modestement son insuffisance à parler couramment une langue qui était aussi familière à Cicéron que la langue romaine. Le plus habile flatteur n'eut rien inventé de mieux pour séduire le vaniteux avocat. Du premier coup, Octave non seulement reconnaissait, mais constatait sa supériorité. On s'entendit donc facilement, et dès la première entrevue, il fut bien arrêté que Cicéron appuierait de son éloquence les droits d'Octave à la succession de César, et que, de son côté, celui-ci emploierait son argent et ses armes à protéger la vie de Cicéron. Nous disons ses armes, car Octave avait déjà des soldats. Quant à cela, c'était Antoine qui s'était chargé de les lui donner. Pompée, l'homme de l'aristocratie, n'était point populaire, et Antoine avait fait les yeux doux aux Pompéens et avait rappelé le jeune Sextus Pompée. Marius était populaire, lui, et Antoine avait eu l'impolitique de faire tuer un homme qui se disait petit-fils de Marius et qui dressait un autel à César. Octave était un tout autre homme, ou plutôt, cet enfant que l'on appelait Octave ne pouvait en aucun point se comparer à Antoine. D'abord, Octave n'avait de prétention sur rien. Antoine faisait sonner bien haut sa descendance d'Hercule. Octave n'avait aucun orgueil à l'endroit de la naissance et avouait lui-même qu'il était d'une simple race de chevaliers. Antoine avait la prétention d'être, César mort, le plus brave soldat et le plus grand capitaine de son époque. Octave avouait franchement son peu de sympathie pour la guerre et son ignorance profonde de la plus simple tactique militaire. Et, en effet, presque tous les jours de bataille, Octave fut malade. Antoine avait adopté le parti de César contre Pompée. Antoine avait aidé César à vaincre à Pharsale. C'était assez pour le faire prendre en exécration par toute cette belle jeunesse romaine qu'il avait frappée au visage encore plus du plat que du tranchant de son épée. Octave, au contraire, était vierge des guerres civiles et n'avait pris parti pour personne. Ce ne sont presque jamais ceux qui rêvent ou qui commencent les révolutions qui les achèvent. Mirabeau et Bailly commencèrent la Révolution française. L'un meurt à la peine, l'autre sur l'échafaud. Napoléon hérite de tout cela. C'est que, de même qu'avant de s'appeler Auguste, Auguste s'appelait Octave, de même, avant de s'appeler Napoléon, Napoléon s'appelait Bonaparte. Le petit lieutenant de 91, le chef de la brigade de 93, le général du 13 Vendémiaire, ne s'était point usé dans les terribles luttes qui venaient d'ensanglanter la France. Il était complètement neuf et pouvait prendre parti pour qui il voulait. Comme Octave, il prit parti pour lui-même. Si Henri IV eût été un protestant trop zélé, au lieu d'être tout prêt à acheter Paris pour une messe, s'il eût refusé d'accomplir ce saut périlleux qui devait le faire retomber dans le giron de l'Église catholique, Henri IV n'en eût jamais fini avec la Ligue. Henri IV et Napoléon ont dû penser plus d'une fois à Auguste et surtout à Octave. Octave avait compris une chose, que la lutte ne lui était possible qu'en ayant pour lui les soldats et le peuple. Les soldats, nous avons dit qu'Antoine les lui avait donnés. Il n'avait pas besoin d'aller à eux, ils venaient à lui. Le peuple, il fallait l'acquérir. Octave employa le moyen le plus simple, il déclara tout haut et fit afficher au forum qu'Antoine, refusant de lui remettre les 30 millions déposés chez lui par Calpurnia, et qui devait être employé à payer les legs de 300 sesterces par tête de citoyen romain, il allait, comme héritier des deux tiers de la fortune de César, faire vendre les biens du dictateur devenus les siens et payer avec ses propres deniers. Oh, dès lors, le peuple ne douta plus qu'Octave fût le véritable héritier de César. Le véritable héritier est celui qui paie les legs du défunt. » Et remarquez qu'au milieu de tout cela, Octave ne parlait qu'avec respect de Brutus et qu'il était prêt à pardonner à Cassius. La vengeance qu'il poursuivait contre eux était une affaire de moralité, une espèce de procès de famille dont l'adoption de César, bien plus que son propre désir, le poussait à voir la fin. Et Cicéron lui tenait parole. Cicéron, de son côté, le poussait de son mieux, disant au Sénat « C'est un enfant dont il n'y a rien à craindre. Il faut le caresser et le supprimer. Ornandum puerum tollendum. » On rapporta le mot à Octave, qui sourit de son sourire d'Octave. Qui sait l'influence qu'eut ce mot dans la discussion où Octave abandonna Cicéron à Antoine? Octave faisait son chemin pendant ce temps. Il demanda le tribunat, ce n'était pas bien exigeant. Antoine défendit positivement qu'on lui fît cette faveur. Tout au contraire, Octave appuya tant qu'il put Antoine lorsque celui-ci proposa d'aller combattre Décimus Brutus, un des meurtriers de César, qui tenait la Gaule cisalpine. Octave débaucha 2 légions sur 4, de sorte qu'y compris les vétérans de César, il se trouvait, lui, enfant de 19 ans qui n'avait aucun commandement, à la tête d'une armée plus considérable que celle d'Antoine. Il offrit galamment cette armée au Sénat. Ce fut alors que le Sénat, probablement sur l'avis de Cicéron, crut faire une chose merveilleuse. Il nomma Octave propréteur et l'envoya, chose inouïe, quand Brutus et Cassius ne pouvaient rentrer dans Rome, porter secours à Décimus Brutus contre Antoine. On adjoignit au jeune propréteur les 2 consuls qui venaient d'être nommés, Hirtius et Pansa, ces 2 honnêtes républicains qui avaient promis leur appui à Cicéron quand il serait consul. Il était clair que c'était 2 surveillants qu'on lui donnait. Octave fit les blanches dents aux 2 consuls et marcha avec eux au secours de Décimus Brutus. On fit route pour Modène, où Décimus Brutus était assiégé.